Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud traité Baba Batra, page 57, Daf Nun Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Pour comprendre l'histoire qui suit, nous allons faire une petite introduction. Alors, pour authentifier un document, il suffit que chacun des témoins qui a signé sur ce document témoigne devant le tribunal que c'est sa signature. Il n'aura pas besoin de témoigner sur la signature du deuxième témoin. Parce que comme la Gemara l'explique dans Ktubot Dafraf, quand les témoins qui ont signé sur un document reconnaissent leur signature, nous considérons qu'ils témoignent à nouveau le contenu de ce document. Mais si l'un des témoins est absent, il faudra que deux témoins étrangers reconnaissent la signature de ce témoin absent. Parce que ces témoins étrangers ne savent pas ce qui s'est passé, ils témoignent donc sur la signature de ce témoin. Il est donc nécessaire d'avoir deux témoins pour authentifier cette signature. La Gemara précise toutefois que le deuxième témoin qui a signé sur ce document ne pourra pas faire partie de ces témoins qui authentifient la deuxième signature. Et cela parce que la Torah dit que deux témoins établissent une vérité. Nous pouvons comprendre donc que chacun de ces témoins établit la moitié de la vérité, ou chacun a une part égale dans l'établissement de cette vérité. Par conséquent, si le témoin qui a signé sur le document authentifie sa signature et en plus participe à l'authentification de la deuxième signature, il se trouve que sa part dans l'établissement de la vérité est plus grande que la part du second témoin. Cela parce que nous considérons que lorsqu'il a reconnu sa signature, il a établi une demi-vérité puisqu'il a authentifié une signature. Lorsqu'il participe à l'authentification de la deuxième signature, nous considérons qu'il établit une part supplémentaire de cette vérité, parce que nous pouvons considérer que son témoignage établit la moitié de la vérité nécessaire pour authentifier la deuxième signature. Il se trouve que finalement, sa part dans l'établissement de la vérité qui est l'authentification de ce document est de 75%, alors que le témoin supplémentaire n'établit que le quart de la vérité, parce que son témoignage n'est nécessaire que pour authentifier la deuxième signature. C'est pour cela que ce témoignage ne pourra pas être accepté, étant donné que le témoignage d'un témoin établit plus que la moitié de la vérité. Il faudra donc impérativement que ce soit deux témoins étrangers qui authentifient la deuxième signature sur ce document. Alors la Gemara dit « Hahushtara dehava chatime ale betre » Il y avait un document sur lequel étaient signés deux témoins. « Shachiv chadminayhu » L'un des témoins est décédé. Il était donc nécessaire d'emmener deux témoins étrangers, comme nous l'avons expliqué, pour authentifier sa signature. « Ata ahuha dehai dekai » Le frère du deuxième témoin qui était encore vivant est venu, « Bechad acharina » et un autre témoin, « Leashude achatimat yadeh deidah » pour témoigner et authentifier la signature de la deuxième personne qui est décédée. Alors, Savar Ravina le Memar, Ravina pensait dire, Hainu Matnitin, ce cas ressemble au cas de notre Mishnah, qui dit, Shlosha Achin Ve'echad Mitztaref Imahen. Trois frères qui témoignent sur une année différente peuvent s'associer avec une tierce personne pour établir un droit de propriété. Alors là aussi, nous pourrons dire la même chose, que deux frères pourront témoigner chacun sur une signature différente pour l'authentifier. Par conséquent, l'un des témoins qui était encore vivant pourra reconnaître sa signature et ainsi l'authentifier, et son frère pourra s'associer avec une autre personne pour authentifier la seconde signature. Amarle, Ravashi. Ravashi lui a répondu, Midami, peux-tu comparer notre cas au cas de notre Mishnah? Hatam, dans le cas de notre Mishnah, Lonafik Neche Riv'a de Mamona, Apuma de Ache. Le témoignage de ces trois frères ne fait pas sortir les trois quarts de l'argent qui est en cause. C'est-à-dire, puisque comme nous l'avons précisé précédemment, deux frères ou deux membres d'une même famille ne peuvent pas former un groupe de témoins. Cependant, comme la Mishnah l'a dit, ils pourront donner des témoignages différents, même si ces témoignages s'associent pour établir une vérité. Mais c'est uniquement à condition où les témoignages des trois frères réunis ne participent pas pour établir plus de la moitié d'une vérité. Par exemple, dans notre Mishnah, où chacun des frères témoigne sur une année différente, donc le témoignage des trois frères réunis n'établit pas plus que la moitié de la vérité, puisque chacun de ces trois frères aura besoin de s'associer avec un autre témoin pour que son témoignage soit accepté. Alors, cette restriction s'impose parce que deux membres d'une même famille ou deux frères seront considérés comme un seul témoin. C'est pour cela donc que de la même manière que le témoignage d'un témoin ne sera accepté que si son témoignage n'établit pas plus que la moitié d'une vérité, le témoignage de deux frères ou de deux membres d'une même famille ne sera accepté que si leur témoignage n'établit pas plus de la moitié d'une vérité. Donc, comme le cas de notre Mishnah. Haha, mais dans le cas proposé par la Gemara, Nafik Neche River de Mamona Apuma de Ache. Il se trouve que les trois quarts de l'argent en cause sort par le témoignage de deux frères. Autrement dit, le témoignage des deux frères établit plus de la moitié d'une vérité. En effet, l'un des frères qui authentifie sa signature établit la moitié d'une vérité qui est l'authentification de ce document. Son frère qui authentifie la deuxième signature établit une part supplémentaire de la vérité de ce document parce que son témoignage s'associe avec celui d'un autre pour authentifier la deuxième signature. Il se trouve donc que par le témoignage de deux frères, plus de la moitié, ou dans notre cas le trois quarts de la vérité, est établi. Donc ces témoignages ne seront pas acceptés. Il faudra donc que les témoins qui authentifient la deuxième signature soient étrangers au premier témoin. Sans cela, ce document ne pourra pas être authentifié. De la même manière que, comme nous l'avons dit précédemment, le témoin vivant ne pourra pas s'associer avec un autre témoin pour authentifier la deuxième signature. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Nun Vav. Nous ferons ici l'introduction du shiur de Baba Batra Daf Nun Zayin. Nous avons vu jusqu'à présent qu'il est possible d'établir un droit de propriété en l'occupant pendant une période de 3 ans. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui permet d'établir un droit de propriété sur une partie d'un terrain ou sur un droit d'utilisation. C'est-à-dire une personne qui aura utilisé la propriété de son prochain d'une certaine manière pendant 3 ans pourra prétendre au droit de propriété sur cette utilisation en présentant l'argument comme quoi le propriétaire lui a cédé ce droit d'utilisation en le vendant ou en lui en faisant cadeau. Nous commençons donc le shiur de Baba Batra Daf Nun Zayin à la Mishnah. La Mishnah dit Elu Dvarim Sheyesh Laim Chazaka. Voici les choses, donc voici les utilisations qui peuvent permettre d'établir un droit de propriété sur une partie d'un terrain ou sur un droit d'utilisation. Et voici les choses, donc les utilisations, qui ne permettront pas d'établir un droit de propriété sur une partie d'un terrain ou sur un droit d'utilisation. Alors la Mishnah précise, celui qui a pris l'habitude de mettre ses animaux dans la cour de son prochain, et ce pendant 3 ans, ou bien Tanur Rechaim Bechiraim, s'il a installé un four, un moulin ou une cuisinière portatif dans la cour de son prochain, ou Megadel Tarnegolim, ou bien s'il élevait des poules ou de la volaille dans la cour de son prochain, Venoten Zivlo Bachatzer, ou bien s'il avait pris l'habitude d'entasser son fumier dans la cour de son prochain, et ce pendant 3 ans. Enachazaka, il ne pourra pas prétendre au droit de propriété. Et cela parce qu'il ne s'agit pas d'utilisation fixe. Il se peut que ce soit pour cela que le propriétaire n'a pas protesté. Aval Asam Chitzal Behemto Gavoa Sarat Fachim. Mais s'il a fait une clôture d'une hauteur de 10 fachim, donc environ 1 mètre, pour parquer son animal ou ses animaux, et aussi s'il a construit un mur derrière lequel il a installé son four, ou bien sa cuisinière, ou bien son moulin, ou bien s'il a pris l'habitude de rentrer les poules ou de la volaille dans la maison de son prochain, ou bien s'il a préparé un endroit pour entasser son fumier d'une profondeur de 3 tfachim pour ne pas qu'il s'éparpille, ou bien s'il a construit un muret de 3 tfachim de haut à l'intérieur duquel il entassait son fumier, il pourra prétendre au droit de propriété. Il pourra donc présenter l'argument qu'il a acquis cet endroit ou ce droit d'utilisation qu'il a occupé pendant 3 ans. Et cela parce qu'il s'agit d'une utilisation fixe. Le propriétaire aurait dû protester. Alors la Gemara demande Maïshana Recha ou Maïshana Tsefa, quelle différence y a-t-il entre le premier cas de la Mishnah et les derniers cas de la Mishnah? Parce qu'il est évident que s'il s'agissait d'une personne qui n'habitait pas dans cette cour, le ou les propriétaires auraient protesté, même s'il s'agit d'une utilisation provisoire. Donc puisque le ou les propriétaires n'ont pas protesté, l'occupant, donc cet étranger, devrait pouvoir prétendre au droit de propriété sur cet endroit qu'il a occupé. Alors la Gemara répond Amaroula. Kol Sheilu Benirse Ager Kana, toute prise de possession qui aurait permis d'acquérir des biens laissés par un converti décédé sans laisser d'héritier, ou d'ailleurs qui aurait pu permettre d'acquérir un terrain, Benirse Chavero Kana, permettra d'établir un droit de propriété dans les biens appartenant à son prochain. comme par exemple le fait de construire une clôture. Kol she'ilu benirsei ager lokana, toute prise de possession qui n'aurait pas permis d'acquérir des biens laissés par un converti décédé sans laisser d'héritier, benirsei chavero lokana, ne permettra pas d'établir un droit de propriété sur le bien de son prochain. Comme par exemple le fait d'installer un four ou un moulin portatif sur le terrain de son voisin. En effet, cette action ne permettra pas d'acquérir des biens laissés par un converti, parce que cette action n'a apporté aucune amélioration au terrain. Matkifla, Rav Shechet a objecté sur cette réponse. Uklalahu, est-ce que c'est une règle générale? Beharenir, voici que nous savons que le fait de labourer des benirsei ager kana, qui permet d'acquérir des biens laissés par un converti décédé sans laisser d'enfant, benirsei chavero lokana, cependant, comme nous l'avons vu plus haut, daf lavem vavamudbet, le fait de labourer ne permet pas d'établir un droit de propriété. Et en plus, vehare achilat perot, voici que le fait de consommer les fruits produits par un terrain, de benirsei chavero kana, qui permet d'établir un droit de propriété sur les biens de son prochain, benirsei ager lokana, mais cette action ne permet pas d'acquérir les biens laissés par un converti décédé sans laisser d'enfant, parce que là aussi cette action n'a apporté aucune amélioration au terrain, comme nous l'avons vu plus haut, daf nundalet. D'ailleurs, la Gemara aurait pu demander aussi que le fait de faire entrer de la volaille dans une maison, qui n'est pas une action qui permet d'acquérir des biens laissés par un converti, et quand même nous voyons dans la Mishnah que cette action permet d'établir un droit de propriété. Et là, c'est pour cela que Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Nun Zayin Amud Bet. Hacha bechatzer ashutfin askinan. Ici nous parlons d'une cour appartenant à des associés. Et c'est l'un des associés qui a utilisé la cour de cette manière. De behamada ke de lokabde. Alors pour une simple installation provisoire, les associés ne se mettent pas en colère si l'un des associés a fait cela sans leur demander la permission. Par conséquent, s'il a simplement pris l'habitude de mettre ses animaux dans la cour, ou bien s'il a installé un four ou un moulin ou une cuisinière d'une manière provisoire, il se peut que les associés n'aient pas protesté, même s'ils ne lui avaient pas accordé la permission de le faire. Et c'est pour cela que pour une telle utilisation, il ne pourra pas prétendre au droit de propriété. Amechitza kabde. Par contre, ils se mettront en colère si l'un des associés a construit un mur ou une clôture pour son utilisation privée. Par conséquent, dans les derniers cas de la Mishnah, où il a construit une clôture pour mettre ses animaux, ou bien un mur derrière lequel il a installé son four, son moulin ou sa cuisinière, ou bien par exemple s'il a fait rentrer un élevage de poules ou de volailles dans une maison qui appartenait aux associés, ils auraient dû protester. S'ils ne l'ont pas fait, il pourra prétendre au droit de propriété. Alors la Gemara demande au Bahamada Kede Lokabde, est-ce que pour le simple fait de faire une installation provisoire dans la cour commune, les associés ne se mettent pas en colère? Behatnan, pourtant, il a été enseigné dans une Mishnah, dans les Darim Dafmem Heamudbet, Hashutafin Shenadru Hanaa Zemize, des associés qui auraient fait le vœu de ne pas tirer profit l'un de l'autre, Asurin Likanes Lechatser, ils n'auront pas le droit de pénétrer dans la cour commune. Et cela parce qu'en pénétrant dans la cour commune, l'un des associés profite de l'autre, alors qu'il s'était interdit de le faire. Et si nous disons que les associés ne sont pas gênés par le fait que l'un des associés fasse une installation provisoire dans la cour, nous pouvons considérer que chacun des associés a renoncé à ses droits dans cette cour concernant les installations provisoires ou par exemple le passage dans cette cour. Finalement, nous pourrons donc considérer que lorsque l'un des associés traverse la cour, il ne traverse pas dans la partie qui appartient à son associé. Par conséquent, même après son vœu, il devrait avoir le droit de traverser cette cour. Forcément, si nous voyons dans la Mishnah que l'associé qui a fait le vœu de ne pas profiter de ses associés n'aura pas le droit de traverser la cour, c'est que les associés n'ont pas renoncé à leur droit dans cette cour concernant le passage. Finalement donc, nous pouvons en conclure que même pour une installation provisoire, les associés sont gênés. Le droit de propriété devrait donc pouvoir être établi. Et là, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Hacha Berachva Shelachore Batim Askinan. Ici, il s'agit de l'arrière-cour qui n'est pas tellement utilisé. Et c'est pour cela que de Be'amanda Kede Lokabdi, que les associés ne se mettent pas en colère pour une simple installation provisoire. Ve'amechitza Kabde. Mais les associés se mettront quand même en colère lorsque l'un des associés construira une clôture ou un mur. Et c'est pour cela donc, comme nous l'avons expliqué précédemment, que dans les derniers cas cités par la Mishnah, le droit de propriété sera établi, alors que dans les premiers cas de la Mishnah, le droit de propriété ne sera pas établi. Rav Papa Amar, idi veidi bechatzer ha-shutfin. Soit dans le premier cas de la Mishnah, soit dans les derniers cas de la Mishnah, il s'agit de la cour des associés. Veika de kabde, veika de lokabde. Cependant, il y a des associés qui se mettent en colère pour une installation provisoire, et il y en a qui ne se mettent pas en colère. C'est pour cela donc, Gabe Mamona, concernant les questions monétaires, l'akula, nous dirons l'akula. C'est-à-dire nous dirons que peut-être qu'ici il s'agit d'associés qui ne se mettent pas en colère pour une installation provisoire, et c'est pour cela que le droit de propriété ne sera pas établi. Gabe Isura, mais concernant les interdictions, le Khumra, on sera plus strict. Et puisqu'il y a des associés qui se mettent en colère pour une installation provisoire, ou par exemple pour un passage, c'est pour cela que l'associé qui a fait le vœu de ne pas profiter de ses associés, il n'aura pas le droit même de traverser la cour commune. Ravina Amar, Leolam Lokabde. Toujours pourrais-je dire que pour une simple installation provisoire, les associés ne se mettent pas en colère. Vehamane, cependant, l'auteur de la Mishnah dans Nedarim Dafemhe, qui interdit à l'associé qui a fait le vœu de ne pas profiter de ses associés de traverser la cour commune, Rabbi Eliezer Hi et Rabbi Eliezer de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer, Afilu Vitur Asur Bemudar Hana'a. Même un simple renoncement est interdit à l'avantage d'une personne qui a fait le vœu de ne pas tirer profit de son prochain. Par conséquent, même si les associés ne se mettent pas en colère pour une installation provisoire ou pour un simple passage, cependant il s'agit d'un renoncement. Selon Rabbi Eliezer, même ce renoncement est interdit lorsque cet associé a fait le vœu de ne pas tirer profit de ses associés. Et c'est pour cela donc que selon lui, cet associé n'aura pas le droit de traverser la cour commune. En tout cas, il en ressort de là, puisque nous avons établi que les associés en général ne sont pas gênés par une installation provisoire, il sera donc permis à l'un des associés de faire une installation provisoire sans même demander aux autres associés. Donc il aura le droit, par exemple, de mettre ses animaux dans la cour provisoire, ainsi que les autres utilisations énumérées par la Mishnah pour lesquelles le droit de propriété ne peut pas être établi. Et cela parce que nous estimons que les associés ne sont pas gênés par cela et lui permettent de le faire. Et c'est pour cela qu'ils ne protestent pas. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a Bakol Shutafin Me'akvin Zeedze. Les associés peuvent s'empêcher mutuellement toute installation fixe. C'est-à-dire, si l'un des associés veut fermer une partie de la cour commune pour y mettre ses animaux ou pour installer un four ou un moulin, par exemple, les autres associés pourront l'empêcher de le faire. Et cela parce que le fait de fermer une partie de la cour rapte ici la cour qui est destinée à l'usage de tout le monde. Chutz minagvisa, mis à part le cas où l'un des associés veut fermer un endroit de la cour pour permettre aux membres de sa famille de laver le linge. En effet, les chachamim ont permis de fermer un endroit de la cour pour laver le linge contre la volonté des autres associés. Et cela parce que chez Endarkan, chez le Benot Israël, l'id bazot à la kvissa. Il ne sied pas aux filles ou aux femmes d'Ebné Israël de se dégrader pour laver le linge. En effet, à l'époque, lorsqu'il avait le linge dans le fleuve, il devait se dévoiler les jambes, ce qui est contre les lois de la pudeur. Et c'est pour cela que les Chachamim ont institué que n'importe qui puisse fermer un endroit dans sa cour pour permettre le lavage du linge en privé, sans devoir se conduire d'une manière immodeste. Le pasouk dans Yeshaya Lamed Gimel, qui parle des habitants de Yerushalayim qui pleureront la disparition des tzadikim. Le pasouk énumère une liste de tzadikim, entre autres, le pasouk dit Ve'otsem enav merod bera, celui qui ferme ses yeux pour éviter de voir le mal. Celui-ci est aussi considéré comme un tzadik. Amar Rabchia Baraba, Ze she'en mistakel benashim, Besha'a she'omdot ala kvitsa. Le pasouk parle de celui qui ne regarde pas les femmes lorsqu'elles lavent leur linge, alors que leurs jambes sont dévoilées. Alors la Gemara demande, Heridami, de quel cas s'agit-il? Ideika darka harita, si il y a un autre chemin. C'est-à-dire, si cette personne n'était pas obligée de passer à côté de ce fleuve où les femmes lavent leur linge. Et quand même, cette personne est passée là-bas, Rachahou, c'est un mécréant, parce qu'il n'aurait pas dû se mettre dans cette situation dangereuse où il pourrait voir des femmes dont les jambes sont dévoilées. Ideika darka harita, s'il n'y avait pas un autre chemin pour passer, donc cette personne était obligée de passer là-bas, à Nusu, il est dans un cas de force majeure. Donc pourquoi est-ce que le pasouk loue cette personne qui ferme ses yeux dans une situation de force majeure? Ma répond, le olam deleka darka harita. Toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'un cas où il n'y avait pas d'autre chemin, donc cette personne était obligée de passer à côté du fleuve où les femmes lavaient leur linge. Va filouachi, et nous apprenons de ce pasouk que même si c'est ainsi, Donc il n'avait pas le choix. Cette personne doit faire l'effort de détourner ses yeux pour ne pas voir ces femmes dont les jambes sont découvertes. Et c'est pour cela que le pasouk loue cette personne, lui accordant le titre de tzadik lorsqu'il a détourné les yeux, parce qu'il a fait cet effort particulier. Puisque nous avons vu précédemment un enseignement que Rabbi Yochanan a rapporté au nom de Rabbi Benaha, la Gemara va nous emmener ici plusieurs enseignements et histoires de Rabbi Benaha. Alors, Ba'amine Rabbi Yochanan mi Rabbi Benaha. Rabbi Yochanan a posé la question suivante à Rabbi Benaha. Chalouk shel Tamid Chacham Ketzad. À quoi ressemble la tunique d'un Tamid Chacham qui s'habille avec pudeur? Alors, Rabbi Benaha lui a répondu. Kol shen besaro nire mitachtav. Cette tunique est suffisamment longue de manière à ce qu'il soit impossible de voir sa chair, même lorsqu'il marche pieds nus. En d'autres termes, cette tunique arrive jusqu'au parterre, de manière à couvrir ses pieds. Talit shel Talmid Chacham Ketzad, Rabbi Yochanan lui a demandé à quoi ressemble l'habit du Talmid Chacham. Il s'agit de l'habit que le Talmid Chacham portait au-dessus de sa tunique. Rabbi Benaha lui a répondu, Kol she'en chalukon nire mitachtav tefach. Cet habit est suffisamment long de manière à ce que sa tunique ne dépasse pas d'un tefach, soit environ 10 cm. Et évidemment, ce sera encore mieux si cet habit couvre entièrement sa tunique. Maintenant, Rabbi Yochanan demande Shulchan shel Tamid Chacham Ketzad. À quoi ressemble la table d'un Tamid Chacham? C'est-à-dire, comment dispose-t-il la nourriture? Rabbi Benaha lui a répondu Shne Shlishe Gdil ou Shlish Galay. Pour comprendre la réponse, il faut savoir qu'à l'époque, les gens s'accoudaient sur des lits et mangeaient donc sur une table basse. Et ceux qui s'attablaient ne s'installaient que d'un côté de la table, l'autre côté restait libre. Alors Rabbi Benaha a répondu que le deux tiers de la table était couvert d'une nappe. C'était les deux tiers qui étaient du côté de ceux qui s'attablaient pour leur permettre de poser le pain sur la nappe et de s'essuyer avec cette nappe. Et le tiers de la table, donc le tiers extérieur, restait découvert. Ve'alav, Ka'arot, Ve'yerek. Et en cet endroit, on posait les plats et les légumes. Ainsi, les plats ne risquaient pas de se renverser et le pain restait propre. Ve'taba, Tomi, Bachutz. Et le crochet avec lequel on accrochait la table lorsqu'on s'en servait pas, était vers l'extérieur pour ne pas gêner ceux qui mangent. Alors la Gemara demande, Behatania taba tomi bifnim. Pourtant, il est enseigné dans une braïta que le crochet avec lequel on accrochait la table était vers l'intérieur, c'est-à-dire du côté des gens qui mangeaient. La Gemara répond, Lakashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux enseignements. Ha deikainuka. Rabbi Benaha qui dit que ce crochet était vers l'extérieur, c'est lorsque parmi les gens attablés, il y avait aussi un enfant. Alors pour éviter que cet enfant joue avec ce crochet et renverse la table, ce crochet devait être mis vers l'extérieur. Hadelekainuka, alors que la Braïta parle dans un cas où il n'y a pas d'enfant attablé. Et c'est pour cela donc que le crochet pouvait être vers l'intérieur. L'Agma expliquera pourquoi. Vibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Havehadelekainuka, les deux enseignements. Donc, celui de Rabbi Benaha et celui de la Braïta parlent d'un cas où il n'y avait pas d'enfant attablé. Vela Kashia, il n'y a quand même pas de contradiction entre ces deux enseignements. Hadika Shama, la Braïta parle d'un cas où il y a un serveur. Celui-ci risque de se blesser avec ce crochet et c'est pour cela que celui-ci devait être vers l'intérieur. Hadeleka Shama, Rabbi Benaha parle d'un cas où il n'y a pas de serveur. C'est pour cela que c'est mieux que le crochet soit vers l'extérieur pour ne pas gêner ceux qui mangent. Vibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Dans les deux enseignements, donc soit celui de Rabbi Benaha, soit celui de la Braïta, parle d'un cas où il y a un serveur. Vela Kashia, il n'y a quand même pas de contradiction. Habemama, Rabbi Benaha parle pendant la journée. Le serveur peut faire attention de ne pas se blesser avec ce crochet. Par conséquent, c'est mieux que ce crochet soit vers l'extérieur pour ne pas gêner ceux qui sont attablés. Habelelia, la Braïta parle pendant la nuit. Il se peut donc que le serveur se blesse avec ce crochet parce qu'il ne le verra pas, et c'est pour cela qu'il faudra le mettre vers l'intérieur. Alors Rabbi Benaha continue, Veshela Maharet est la table d'un ignorant.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.